Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un excellent sabbat reposant et rafraîchissant. Tout au début, quand il y avait Dieu le Père et la parole, il y avait la paix. Il y avait une entente parfaite entre Dieu le Père et la parole, et quand Dieu a créé les anges, Lucifer, donc, et en parlant de Lucifer, Dieu a dit, tu mettais le sceau à la perfection. Je voulais vous lire un extrait du Mystère des siècles à la page 73. Mystère des siècles, écrit par Monsieur Armstrong à la page 73. Nous lisons ceci. En parlant de Lucifer, justement, il avait été formé pour administrer la loi et l'ordre parfait. Tant qu'il suivit cette voie parfaite, il y eut sur la terre un bonheur et une joie indescriptibles. Il y eut la paix, une harmonie merveilleuse, de l'amour parfait et de la coopération. Le gouvernement divin produisait un bonheur merveilleux qui dura aussi longtemps que Lucifer l'administra fidèlement. Un peu plus loin, dans le même chapitre, à la page 79, nous lisons ceci. Aussi longtemps que Lucifer resta loyal envers le gouvernement divin et qu'il l'administra fidèlement, la terre fut plongée dans une paix merveilleuse et parfaite. Les anges furent extrêmement heureux, débordants de joie. La loi du gouvernement divin, c'est la façon de vivre qui cause et qui produit la paix, le bonheur, la prospérité et le bien-être. Le péché, c'est la façon de vivre qui est la cause de tous les maux actuels. Et Lucifer a péché, il se rebellait contre Dieu, il est devenu l'adversaire de Dieu. Toujours la page 79. Dernière citation, page 79. Dieu changea le nom de Lucifer et l'appela ce qu'il était devenu, Satan, le diable, ce qui signifie adversaire, concurrent, ennemi. Satan se mit alors à utiliser ses pouvoirs surnaturels à des fins iniques. Il devint l'adversaire acharné non seulement de Dieu, mais aussi de la loi divine. Il redoubla de ruse et incita les anges qui étaient sous lui à être déloyaux et à se révolter, à se rebeller contre leur Créateur, puis à mener une guerre d'agression et de violence avec l'intention de renverser Dieu et de s'emparer du trône de l'univers. Fin de citation. Et Dieu a précisé à propos de cette être qui se rebellait, tu as été rempli de violence et tu as péché. Satan a pris la voie qui est contraire à la paix. Et la paix a effectivement volé en éclats. Nous constatons aussi que dès la création de l'homme, il y avait des problèmes. Adam a accusé sa femme. Il y a eu la division, ce point de vue-là. Il n'y avait plus l'harmonie. Ils ont suivi Satan, ils n'ont pas suivi Dieu. Et Caïn est devenu le premier meurtrier. Nous lisons à propos de Caïn, quand l'Éternel n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, nous lisons que Caïn fut très irrité. Il n'y avait plus la paix. Et l'histoire du monde, c'est une histoire où souvent, il n'y avait pas de paix. La paix, il faut savoir que la paix commence à la maison. En contraste avec la voix de Satan, pour nous chrétiens, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Il nous a appelés à vivre en harmonie les uns avec les autres. Les consignes dans la Bible sont très claires. Du reste, la paix, c'est un des fruits de l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 12 et le verset 18 dit ceci, Romains 12, 18, je ne m'y rapporte pas. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, donc nous voyons clairement qu'il s'agit de notre responsabilité personnelle, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il peut y avoir des situations où ce n'est pas possible, mais sinon, il s'agit de se comporter pour être en paix avec tous les hommes. Hébreux chapitre 12 et le verset 14, je ne m'y rapporte pas non plus, Hébreux chapitre 12 et le verset 14, recherchez la paix avec tous. Donc les consignes bibliques sont très claires, on voit où Dieu met l'accent, c'est sur le fait d'être en paix, de vivre en paix. Et nous allons regarder, si vous voulez bien, Romains chapitre 14. Romains chapitre 14 met l'accent sur diverses questions alimentaires. Par exemple, la consommation de légumes ou de viande, au début du chapitre, et un peu plus loin, le repas ou le jeûne lors des jours précis. C'est des sujets, entre autres. Et Romains chapitre 14, donc, il y avait plusieurs qui souhaitaient être végétariens. Ce n'était pas le même cas de figure que de nos jours. Il y avait la viande pure, je précise. C'était une question de conscience. Mais il y avait effectivement différents points de vue, différentes perspectives sur la question. Et ça a créé des tensions. Ça a enlevé la paix dans l'Église. Romains chapitre 14 et le verset 16. Romains chapitre 14 et le verset 16. Nous voyons ici que l'apôtre Paul recadrait le tout, recadrait ce sujet dans un contexte spirituel. Verset 16. Mais commençons avec le verset 15 pour mieux situer le contexte. Verset 15. Mais si, pour un adhémant, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton adhémant la perte de celui pour lequel Christ est mort. Il y avait cette division, il y avait des gens qui agissaient différemment en fonction de leur conscience. Verset 16, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Verset 17, l'apôtre Paul donc, mettre ça dans un contexte spirituel, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Des choses importantes, des choses principales, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est à voir avec la conversion. De vivre sans la justice de Dieu, d'engendrer la paix, de semer la paix et de vivre avec joie. Ceci grâce à l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 14, le verset 18. Celui qui sait Christ de cette manière, en se comportant ainsi, celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix, parce que c'est ça qui est le plus important, la paix et pas la division, et à l'édification mutuelle. Verset 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. De vouloir la paix, dans le contexte bien sûr de la loi de Dieu, mais de vouloir la paix à ce prix-là. D'être disposé à se sacrifier pour ne pas créer des problèmes, pour que la paix ne soit pas enlevée. Et ça m'emmène au sujet de ce sermon, et qui se trouve dans Matthieu chapitre 5 et le verset 9. Matthieu chapitre 5 et le verset 9, un des béatitudes. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc j'ai voulu parler sur le fait de procurer la paix au cours de ce sermon. La définition que Lua donne pour ce mot, c'est aussi un pacificateur. Un pacificateur. Lua, ça vient de deux mots. D'après Lua, ça vient de deux mots. Et un de ces deux mots veut dire produire, enfin traduit différemment, par produire, construire, former ou façonner. Produire, construire, former ou façonner. Nous ne pensons pas forcément au fait de construire ou de façonner, de former, de produire la paix. Notre nature humaine, étant ce qu'elle est, nous empêche d'y penser. Et l'égoïsme peut nous empêcher, effectivement, d'y penser. Mais ici, dans Matthieu 5, verset 9, il est question d'une réussite, d'un aboutissement. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils vont jusqu'au bout, ils arrivent à obtenir, à procurer la paix. Dans la version anglaise, on parle de peacemakers, donc des faiseurs de paix. Nous connaissons des gens probablement qui sont des faiseurs d'histoire, mais ici, il s'agit d'un faiseur de paix. Et le verset termine avec la phrase « Ils seront appelés fils de Dieu ». Fils de Dieu, quel honneur d'être appelé fils de Dieu, bien sûr, si nous sommes des faiseurs de paix. Mais pour procurer la paix, parce qu'il s'agit ici donc de procurer la paix, il faut vraiment vouloir. Il faut désirer la paix. Il faut rechercher la paix. Éphésiens chapitre 5 et le verset 8. Éphésiens chapitre 5 et le verset 8. Nous lisons ceci. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous avons entamé une voie complètement différente. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et ensuite, une consigne biblique, verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, je m'arrête là pour l'instant. David cherchait aussi à savoir ce qui était agréable au Seigneur. Il nous donne un condensé dans le psaume 34. Le psaume 34, à partir du verset 13. David donc nous donne cet élément de réponse, et la division n'est pas la réponse. On va revenir, si vous voulez bien, à Éphésiens chapitre 5, le verset 11, avant de regarder le psaume 34. Je reprends le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il y a donc la voie qui est agréable au Seigneur, et l'autre voie qui est l'opposé, c'est de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. La voie de Dieu est une voie de lumière, tandis que Satan a plongé ce monde dans les ténèbres. Revenons maintenant donc à Psaume 34, le verset 13. Psaume 34, le verset 13, où nous lisons « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Je pense que presque tout le monde aimerait prolonger leur vie pour jouir du bonheur. Presque tout le monde aimerait être heureux. Le mot bonheur est souvent utilisé, le mot hébreu de bonheur, traduit en français par bonheur, est souvent utilisé dans Ecclésiaste et parfois c'est traduit par bien-être. Bien-être. Ecclésiaste 2.24 par exemple, Ecclésiaste 2.24, fait jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Le verset 13 est une question et David donne la réponse dans le verset 14 et le verset 15. Il conseille à ceux qui aimeraient avoir une vie longue de faire un certain nombre de choses. Verset 14. Préserve ta langue du mal, mais t'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Nous voyons ici les deux aspects de la voie de Dieu. Le fait, d'une part, de s'éloigner du mal, et de l'autre côté, le fait de faire quelque chose, de faire le bien. S'éloigner du mal, éviter de pécher. Et puis ensuite, ça continue, recherche et poursuit la paix. Le fait de rechercher et de poursuivre la paix, c'est une voie. Et la Bible parle du chemin de la paix. Une voie, c'est un chemin. Nous le trouvons dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 59, et nous le trouvons également dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 3. Il s'agit donc de marcher, d'emprunter une voie, un chemin, pour arriver à la paix. La paix, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, quand nous marchons dans cette voie, quand nous avons emprunté le chemin de la paix, et quand nous avons poursuivi la paix, et nous arrivons à l'aboutissement, la paix. Du reste, il faut aimer procurer la paix. La Bible parle donc de rechercher la paix. Il nous faut aimer procurer la paix. Il y a bien sûr des sujets qui divisent, et il y a d'autres sujets qui rapprochent, ou qui nous unissent. Généralement, on dit qu'il faut éviter trois sujets pour ne pas créer des problèmes. La politique, l'argent et la religion. Mais dans l'Église, la religion devrait nous rapprocher, justement. Mais ça peut ne pas être le cas. La paix se construit, et s'il y a un manque de paix, nous pouvons nous poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Satan, on l'a vu tout à l'heure, travaille dans les ténèbres. Satan produit des œuvres infructueuses des ténèbres. Mais Satan ne veut pas que nous vivions, nous les membres de l'Église, que nous vivions en paix. Satan est un destructeur. Il suffit de voir toutes les guerres qui ont eu lieu depuis que l'homme existe, toutes les relations familiales brisées, les relations difficiles qui existent parfois au sein du travail, et Satan va tout faire pour essayer de détruire la bonne entente qu'il devrait y avoir entre les membres de l'Église. Ça rejoint Matthieu chapitre 5 et le verset 9, parce qu'il faut agir d'une certaine manière pour avoir un résultat. Procurer la paix. Procurer la paix. La Bible parle, c'est ce que nous venons de voir dans Psaume 34, de rechercher la paix. Il y a un effort à fournir. Il faut réfléchir pour construire la paix. Il faut méditer comment faire, comment nous comporter, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Si nous savons, par exemple, que la personne en face de nous a un autre point de vue, et là, je ne parle pas d'un compromis de notre part, Mais si nous savons que la personne en face de nous a un autre point de vue, il faut faire attention. Il faut faire attention pour ne pas créer inutilement des tensions. Et si nous ne recherchons pas la paix, nous pouvons, sans même le vouloir parfois, nous pouvons provoquer une dispute. Nous pouvons enlever la paix. Donc il s'agit de méditer, il s'agit aussi, bien sûr, de prier. Prier que Dieu nous donne la sagesse pour procurer la paix et de voir par la même occasion où nous ne procurons pas la paix. Parce que la paix est fragile. Il faut poursuivre, il faut rechercher la paix et il faut poursuivre la paix. Jour après jour, il faut que ce soit notre but. Ce passage dans Psaume 34 est tellement important que cette écriture a été reprise par Pierre. Et que nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 10. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qui s'éloigne, vous voyez, la même chose qui est répétée, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive. Ensuite, le verset 12. Pierre ajoute quelque chose qui n'est pas dans le psaume 34. Verset 12. Et ceci rejoint ce que nous avons déjà lu dans Éphésiens chapitre 5. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc je lis le verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font mal. Quand la Bible parle « car », qui suit directement le verset 11, « car les yeux du Seigneur sont sur les justes », il y a un lien avec la justice par rapport à ce que nous venons de lire dans le verset 10 et le verset 11. Il explique pourquoi. Et aux yeux de Dieu, les justes sont les chrétiens. Ce sont des gens qui observent les commandements, qui pratiquent sa voie de vie. Et Dieu ne va pas bénir quelqu'un s'il ne suit pas cette voie, ce chemin. Il ne peut pas compter sur les bénédictions de Dieu. Verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Normalement, le bien est apprécié. Abraham cherchait la paix. Abraham, si vous regardez le récit dans Genèse, Abraham a fait une alliance avec Abimélech. Abraham a juré d'avoir la bienveillance à son égard. Et lorsque Sarah est décédée, Abraham cherchait une possession sépulcrale pour Sarah. Il s'est entretenu avec les fils de Heth. Il a dit lui-même, il était étranger et habitant parmi vous. Nous voyons dans le récit qui nous est donné dans Genèse chapitre 23, j'y m'y rapporte pas non plus, mais on voit lors de sa conversation avec les fils de Heth, le respect qu'ils avaient pour Abraham et visiblement la paix dans leur relation réciproque. Mais le récit qui montre à quel point Abraham cherchait la paix, c'est le récit qui nous est donné dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13 et le verset 5. Parce que justement, il y avait des problèmes. Dans le verset 5, Genèse chapitre 13, le verset 5, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Ils sont devenus riches. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Il n'y avait plus la paix à cause de ce problème. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Il y avait donc la tension, il n'y avait plus la paix, et Abraham, comme il était connu à cette époque, était un homme de Dieu, et il cherchait vraiment, il recherchait la paix. Nous le voyons dans le verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Il ne voulait pas ces problèmes, il voulait la paix, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et il continuait donc à regarder Lot, qui était son neveu, il continuait à regarder comme un frère, pas comme un problème, pas comme un ennemi. Et il regardait, il voyait aussi une solution. Et il peut y avoir des tensions au sein d'une famille. Il faut trouver des solutions. Logiquement, c'était à Abraham d'avoir le choix du pâturage. Mais il ne voulait pas la division, il ne voulait pas des disputes, il voulait la paix, il recherchait la paix, et il recherchait le bien de son neveu. Du reste, plus tard, quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a eu le courage et l'amour pour son neveu d'intercéder auprès de Dieu. Il était motivé par l'amour. Verset 9. Abraham continue à parler. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Lot a choisi physiquement. Il a vu la richesse de la vallée et il a choisi d'aller vers Sodome. C'est marqué, verset 12, Abraham habitait dans la paix de Canaan et Lot habitait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. La situation de Lot, du reste, a évolué. Parce que nous voyons dans le chapitre suivant que Lot à ce moment-là habitait Sodome. Et même quand les deux anges sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe, Lot était assis à la porte de Sodome. Il était assis à la porte de Sodome. Abraham, de son côté, a choisi la paix. Je voulais concentrer sur un aspect maintenant de comment procurer la paix. Un aspect que nous trouvons dans Proverbes chapitre 15 et le verset 1. Comment arriver à la paix dans une situation donnée et comment ne pas y arriver. Et je veux lire ceci dans la version Darby. Proverbes chapitre 15. Et le verset 1, Proverbes chapitre 15, verset 1, version Darby, une réponse douce détourne la fureur, mais la parole blessante excite la colère. Du reste, il y a plusieurs traductions qui utilisent l'expression parole blessante dans ce verset. Shouraki parle de parole qui peine. Parole qui peine. Et Lueur, dans une traduction, Il y a une traduction qui donne, c'est faire mal. Donc une parole blessante, quelqu'un qui fait mal, une parole qui peine. Il y a deux exemples qui illustrent les deux aspects de ce proverbe. Deux exemples, un positif et l'autre négatif. Le premier exemple, c'est le Gédéon. À ce moment-là, Israël avait été envahi par Madian. Mais nous voyons dans Juges chapitre 6, nous voyons déjà le caractère de Gédéon. Et le caractère de Gédéon est important pour la suite de l'histoire. Juges chapitre 6 et le verset 11. Bon, nous connaissons l'histoire. Verset 11. Puis, je saute donc au milieu d'un contexte. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Il est intéressant de constater ici que c'est des Gédéons qui battaient du froment au pressoir. Il avait des serviteurs, mais ce n'était pas des serviteurs, c'était lui. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Nous voyons ici la perception, l'évaluation, si vous voulez, de Dieu. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et le contraste est saisissant entre ce que Dieu lui dit, l'évaluation, si vous voulez, de Dieu, et sa propre évaluation de lui-même. Verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre menacée, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Son évaluation de lui-même. Et le contraste est saisissant entre ce que Dieu dit à son sujet et ce qu'il dit lui-même à son sujet. Barnes, commentaire Barnes, dit ceci. Gédéon s'aperçut alors que le Seigneur lui parlait par son ange. Il ne voyait cependant aucune qualification en lui-même, ni dans sa famille ou sa tribu, pour la fonction de sauver son peuple. Verset 36. Il reste petit à ses yeux, il donne la gloire à Dieu. Verset 36, toujours le chapitre 6. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. » Et nous connaissons l'histoire avec la toison de laine. Mais il donne la gloire à Dieu. Et il se voyait comme un instrument de Dieu. Comme un instrument de Dieu. Je ne vais pas raconter toute l'histoire avec les 300 hommes. Nous sommes familiers avec ces 300 hommes que Dieu a utilisés. Juges chapitre 7 et le verset 22. Juges chapitre 7 et le verset 22. Je saute au milieu d'un contexte. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita vers Serera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se ressemblèrent ceux de Naphtali, d'Azer, et de tout menacer, et poursuivirent Madian. Verset 24. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, « Descendez à la rencontre de Madian, et coupez-le le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, et ils s'emparèrent du passage des eaux, donc les guets, jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Il faut garder en tête le fait que le tribu d'Éphraïm n'a pas été sollicité jusqu'à là. Verset 25. Ils saisirent deux chefs de Madian, Horeb et Zeb. Il tuait Horeb au rocher d'Horeb, et il tuait Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zeb à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain. Les trophées de guerre, si vous voulez, parce que c'était aussi la pratique à l'époque. Chapitre 8, verset 1. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Et ils eurent avec lui une violente querelle. Le rabbinat dit ceci, et ils disputèrent violemment avec Gédéon. Verset 2. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous le grappillage d'Éphraïm? Ne vaut-il pas mieux que le vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zeb. » Le rabbinat dit, pour le verset 2, « Mais il répondit. » Mais il répondit, contrairement justement à ce qu'on pouvait imaginer, contrairement peut-être à ce que quelqu'un aurait répondu la plupart du temps. Si vous voulez, c'était une réponse douce. Je reprends le verset 3. C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. La réponse douce de Gédéon a apaisé la colère des hommes d'Éphraïm, a détourné leur fureur, pour reprendre la version d'Abi. Et, de son côté, Gédéon n'a pas laissé d'orgueil prendre le dessus. C'était pourtant lui l'instrument de Dieu, à qui Dieu avait donné la victoire, et avec qui Dieu a communiqué. Mais il a désamorcé la crise, il voulait créer une situation apaisante, il a recherché la paix. Et en recherchant la paix, il a obtenu la paix, il était un faiseur de paix. Il avait un résultat parce qu'il a suivi la voie de Dieu. Le résultat, c'était la paix. Un homme de Dieu qui suivait la voie de Dieu, il avait ce contact étroit avec Dieu. Vous rappelez que Dieu avait dit qu'il était un vaillant héros, mais, comme j'ai dit, il n'a pas laissé l'orgueil prendre le dessus dans sa vie. Nous pouvons contraster l'exemple de Gédéon avec l'exemple de Roboam, fils de Salomon. Et le contraste est saisissant parce que Roboam n'a pas pratiqué la même voie avec des conséquences bien différentes. Un roi, chapitre 12, et le verset 1. Un roi, chapitre 12, et le verset 1, nous arrivons à un moment important dans l'histoire d'Israël après la mort de Salomon. Verset 1, Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On le voyait appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Barnes dit ceci, « Mais le principal grief était le travail forcé auquel ils avaient été soumis. » Il cite 1 Roi 5.13 et 1 Roi 11.28. Le travail forcé a été l'une des causes de l'insurrection à de nombreuses époques et dans de nombreux pays. Il a contribué à la Révolution française et a été pendant de nombreuses années l'un des principaux griefs des serfs russes. Et nous allons voir que Roboam n'avait pas une oreille pour écouter, n'avait pas une oreille pour entendre. Il consulte les vieillards qui lui donnent de sages conseils, verset 6. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent, « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Je voulais vous lire ça dans le Darby, la version Darby. Et ils lui parlèrent, disant, si aujourd'hui tu deviens serviteur de ce peuple, et que tu les serves, et leur répondes, et leur disent de bonnes paroles, ils seront toujours tes serviteurs. Nous sommes familiers avec le fait que la Bible met l'accent sur le fait de servir. Mais dans un deuxième temps, Roboam a consulté les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, et il a suivi leur conseil. Nous arrivons au verset 13, au milieu de verset 13. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Nous ne voyons pas ici l'humilité qui caractérisait Gédéon. Une parole blessante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous pouvons, par nos paroles, déclencher des situations conflictuelles. Verset 15, le résultat. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Il n'a pas recherché la paix, et le résultat est arrivé. On pouvait s'y attendre, les conséquences étaient là. Verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, ils étaient donc conscients de son attitude. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quel part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison, David. » Il y avait déjà la scission. Verset 18. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé sur les impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et y mourut. C'était un mauvais choix et la situation s'empire. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Verset 21, la guerre était même envisagée de la part de Roboam. Roboam arrive à Jérusalem, rassemble toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. La guerre n'a pas eu lieu, Dieu est intervenu, mais nous voyons l'aboutissement dans le chapitre 14 et le verset 30. Chapitre 14 et le verset 30, il y a eu toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Et du reste, ceci est répété dans le chapitre 15 et le verset 6. Chapitre 15 et le verset 6. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam, tant que vécut Roboam. Et tout ceci parce qu'il y avait à l'origine des paroles blessantes, des paroles très blessantes. Et nous voyons que cette situation se propage, se poursuit. Verset 7. Un roi chapitre 15 et le verset 7. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam était le fils de Roboam. Et nous voyons ici les conséquences. Verset 16, toujours le même chapitre. il y eut guerre entre Asa et Baasha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Asa était le fils d'Abijam, et Baasha régnait à la place de Nadab, fils de Jéroboam. C'est même répété, verset 32, il y eut guerre entre Asa et Baasha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Souvent, les hommes n'arrivent pas à s'entendre. Nous vivons dans un monde où il y a des guerres, où il y a beaucoup de violence, des querelles et des disputes. Et dans le monde, les hommes créent parfois des problèmes à leurs propres voisins, à leur propre famille. Dans le monde, il y a souvent aussi des hommes qui ne savent pas pardonner. Et le contraste que nous voyons autour de nous dans ce monde actuel, le contraste est saisissant par rapport à l'avenir. Nous voyons dans Ésaïe chapitre 9, un des titres qui est donné au Christ, c'est le prince de la paix. Le prince de la paix, c'est ce que le Christ va exercer au cours du millénium. Et bien sûr, c'est en opposition directe à la voix de Satan. Le Christ a toujours écouté son Père. Il a toujours suivi les instructions de son Père, contrairement à Adam et à Ève. Et le millénium est symbolisé par la paix. La paix va être instaurée. Les êtres humains vont apprendre à vivre en paix. Vivre en paix avec Dieu et vivre en paix les uns avec les autres. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et dans le royaume, l'équipe du Christ, dont nous allons faire partie si nous persévérons jusqu'à la fin, va enseigner la voie de vie, celle qui procure la paix. Et nous aurons, si nous faisons partie de cette équipe, nous aurons appris à vivre en paix et à procurer la paix. Et nous sommes là actuellement pour apprendre. Je voulais revenir à Matthieu chapitre 5 et le verset 9, Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Nous, de notre côté, aussi, il faut être alerte spirituellement, parce que Satan est aux aguets pour essayer d'enlever la paix de nos vies et de l'Église, d'essayer de créer la division. Si nous voulons être heureux, il faut chercher, il faut poursuivre la paix. Il faut cultiver la paix, l'entretenir pour qu'elle se développe, pour qu'elle fasse partie de notre vie et de notre croissance. C'est ce qui est important. Pour terminer ce sermon, j'ai voulu vous lire la fin de la lettre de M. Micker de la semaine dernière. Une des vérités, M. Micker dit ceci, une des vérités les plus encourageantes que Dieu révèle dans sa parole est qu'un jour, il n'y aura plus jamais de guerre. Dieu y mettra fin pour de bon. Entre-temps, nous devons nous appliquer à apprendre comment procurer la paix autour de nous, entre parenthèses, Matthieu chapitre 5 et le verset 9, vu les différences qui existent entre êtres humains, ce n'est pas toujours facile. Mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. Quand nous pensons aux guerres du passé, encourageons-nous par la certitude que les conflits disparaîtront définitivement sous le règne de Jésus-Christ.